Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 14. Mon texte aujourd'hui se trouve du verset 11 jusqu'au verset 14. Et je voudrais vous parler de ce que c'est d'être uni au Christ. La foi n'est pas simplement une intelligence des doctrines ou bien des choses concernant Dieu que nous embrassons intellectuellement, non. Mais il y a cet aspect spirituel que nous ne devons pas ignorer. Ce que Dieu a choisi dans son élection de la race depuis l'éternité, et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et payé leurs dettes, il ne nous laisse pas à nous-mêmes, mais il donne son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu agissant dans le cœur des élus que Christ a racheté. C'est par son esprit que nous sommes en effet unis au Christ. Donc la foi concerne cet aspect spirituel où l'Esprit de Dieu prend ceux qui sont en effet morts-nés spirituellement dans ce monde et il leur donne la vie et il les attire à Jésus-Christ pour qu'ils soient unis à lui. Et c'est de ça que Christ enseigne ici dans Jean 14, commençant dans le verset 11. Nous avons vu la dernière fois ce que c'est croire en Christ, mais aujourd'hui ce que c'est d'être uni au Christ. Verset 11, Christ dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, on a vu la dernière fois que croire en Christ n'est pas un acte de la volonté de l'individu qui fait que maintenant le pécheur soit uni à Christ. Non, croire en lui, c'est une œuvre de grâce, c'est une œuvre de l'Esprit. C'est Dieu qui donne la foi pour qu'un pécheur puisse croire. Autrement, il ne pouvait pas croire. Donc, de croire en Christ, comme il dit, croyez-moi, c'est de croire tout ce que Christ révèle de lui-même, c'est de croire tout ce que la Bible dit à son sujet, qu'il est, pourquoi il est venu dans ce monde, qu'est-ce qu'il a accompli par sa vie et par sa mort, pour qui il a accompli cette œuvre et où il est maintenant. Tout cela fait partie de la croyance que donne l'Esprit de Dieu aux élus de Dieu au moment où il les appelle à Christ. Et cela dépend de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui décide qu'il va croire. Non, c'est Dieu qui donne cette foi selon sa volonté souveraine. Alors, croyez-moi. Il dit, je suis dans le Père. Donc ici, déjà, nous voyons qu'être uni au Christ, c'est d'être uni au Père. Christ a déjà traité de cela dans les versets précédents où Philippe a demandé à Christ dans le verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Je sais que c'est un mystère, la divinité de Dieu, du fait qu'il est unique, il n'y a qu'un seul Dieu, mais néanmoins en trois personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois dieux. Mais on ne peut pas embrasser le Père sans embrasser le Fils. Et on ne peut pas embrasser le Père et le Fils sans que l'Esprit de Dieu attire le cœur pour que nous soyons unis. Mais être unis à Christ et d'être unis au Père, c'est ce que Christ est en train de dire dans le verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Alors, de croire Christ, c'est de croire qu'il est, comme c'est écrit ici, dans le Père. Et le Père est en moi, Christ. On ne peut pas séparer les deux. C'est ce qui est le problème aujourd'hui avec les cultes modernes, parce que les gens veulent s'approcher d'un Dieu selon leur imagination, et ils se réunissent pour ces temps d'adoration, et ils adressent leurs louanges et leurs soi-disant prières à Dieu, mais sans parler du Christ, sans savoir que nul ne peut venir à Dieu le Père si ce n'est à travers son Fils. Donc, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puis il dit, croyez du moins à cause de ses œuvres. Quand il s'agit des œuvres, Christ parle de tout ce qu'il est venu accomplir dès sa naissance jusqu'à sa mort à la croix, et tout était selon la volonté de son Père. Christ n'a jamais dit un mot, ni fait une œuvre, sans que cela ne soit selon la volonté de son Père. Donc il dit, même si vous ne me croyez pas, regardez les œuvres que je fais. Qui peut faire cela si ce n'est un homme divin, Dieu dans la chair? Donc nous croyons lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre des yeux pour voir, parce qu'il faut savoir que beaucoup ont vu les œuvres que Christ a faites lorsqu'il était sur cette terre, mais qui n'ont pas cru en lui selon la foi que l'Esprit donne. Mais ici, il dit, croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est ce qui me réconforte personnellement. Quand peut-être j'ai des doutes dans mon esprit, je reviens encore à cette parole et je lis. Parce que le monde dans lequel nous vivons est contre tout ce qui concerne Christ et concerne son œuvre et concerne sa parole, et parfois ça peut amener dans notre esprit ou bien dans notre cœur des doutes. Et alors c'est ainsi, en revenant et en lisant ce que dit la Bible, nous voyons clairement que tout ce que Christ a fait, ça démontre qu'il n'était pas un simple homme. Aucun homme ne pouvait faire ce qu'il fait si ce qu'il a fait, si ce n'était que il était effectivement Dieu dans la chair. Et c'est ainsi que nous embrassons Christ, pas seulement comme un homme, un simple homme, mais comme Dieu dans la chair. Il y a beaucoup aujourd'hui qui prétendent croire en Christ, mais qui ne croient pas qu'il soit Dieu. Tel que la religion musulmane, ils ont un grand respect pour Jésus, mais pas comme Dieu. Ils considèrent que Jésus, dans le Coran, était un grand prophète, mais si jamais vous insistez selon ce que dit la Bible, qu'il n'était pas un simple prophète, mais il était En effet, il est Dieu lui-même qui est venu en chair. C'est là maintenant qu'il traite ça de blasphème. La même chose avec ceux qui se donnent, ce témoin de Jéhovah. C'est un faux titre parce que le seul témoin de Jéhovah, c'est le témoin de Jésus-Christ, qui est Dieu dans la chair. Mais si jamais vous confondez ceux qui sont de cette religion, témoins de Jéhovah, et vous insistez du fait que Christ n'était pas un simple homme, mais qu'il était Dieu lui-même dans la chair, alors ils vont vous repousser. Et il faut dire la même chose aujourd'hui concernant les Juifs. Allez en Israël, là où cette parole que nous lisons, les Écritures, l'Ancien Testament, surtout pour les Juifs, est considéré toujours comme la parole de Dieu. Mais ils ne croient pas aujourd'hui plus que ceux du premier siècle lorsque Christ est venu dans ce monde. Ils l'ont repoussé, même allé jusqu'à le crucifier parce qu'il se comparait, il disait qu'il était Dieu, il se faisait Dieu. Et il ne voulait pas cette doctrine. Donc, c'est Christ alors qui parle de l'importance de croire en lui, mais aussi de croire que il est dans le Père et le Père est en lui. Un jour, par la grâce de Dieu, lorsque nous serons devant le trône de Dieu, ce n'est pas que nous allons voir Dieu le Père d'un côté, et puis le Fils au milieu, et puis le Saint-Esprit à côté, non. Toute la plénitude de la divinité demeure en Christ. Et alors, c'est Christ, le Seigneur Jésus, que nous verrons assis sur le trône, comme c'est le cas maintenant, il règne maintenant. Christ lui-même a dit qu'il ne juge personne, mais le Père a donné tout jugement à son Fils. Et nous savons aussi, comme nous allons voir dans quelques chapitres, Christ glorifiait son Père du fait que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Donc c'est ce que nous voyons à travers les Écritures, que le Père œuvre et le Fils œuvre en harmonie avec le Père. Lorsqu'on parle de la divinité, nous parlons de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Nous n'avons pas une divinité divisée en pouvoir où le Père veut bien sauver certains, mais Christ maintenant est mort pour d'autres, et puis l'Esprit, de son côté, essaie maintenant de faire son mieux de l'autre côté. Non. Il y a l'harmonie dans le salut qui commence depuis l'éternité, dans l'élection de la grâce. Il y avait cet entendement déjà éternel où le Père a choisi le Fils a accepté de venir selon la volonté du Père pour mourir pour ceux que le Père lui a donné, et l'Esprit a cette œuvre d'appeler, d'attirer à Christ exactement ceux que le Père a choisi pour qui Christ est mort. Donc c'est pourquoi Christ dit dans le verset 11, « Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et nous voyons ces œuvres manifestées à travers la vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Christ n'est pas mort parce que les hommes, en fin de compte, étaient plus forts que lui. Donc nous savons, selon ce que Pierre lui-même a prêché le jour de Pentecôte, que cet homme, le Dieu-homme, acte 2, 23, a été livré, c'est écrit, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Lorsque la Bible parle de la préscience de Dieu, beaucoup disent que, ah oui, c'est Dieu qui regardait en avance et il voyait ce que les hommes allaient faire et c'est ainsi qu'il a dirigé sa décision. Non, la préscience de Dieu, la raison pour laquelle Dieu sait d'avance tout ce qui doit se passer, c'est qu'il a déjà arrêté d'avance. Selon son dessein éternel, arrêté, déterminé, ordonné d'avance tout ce qui devait se passer, même dans la mort de son fils, surtout dans la mort de son fils. Oui, les hommes ont accompli leur volonté en le faisant mourir, parce que c'est écrit, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu a fait sa volonté tout en utilisant les mains de ces impies pour accomplir sa volonté. Rappelons-nous qui étaient ceux qui ont livré le Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'était des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Et sans le savoir, en fait, ils étaient en train d'offrir et faire mourir l'agneau de Dieu, celui dont tous les autres agneaux sacrifiés, démontrés en type, en image, mais maintenant l'agneau de Dieu lui-même s'est offert. Et en tout cela, Dieu accomplissait sa volonté. Ça fait part de ses œuvres dont Christ parle ici, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc si l'Esprit de Dieu nous donne des yeux pour voir, nous contemplons dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, de sa conception jusqu'à sa mort et plus son ascension au ciel, c'était selon la volonté de son Père. Et il a accompli parfaitement cette volonté à travers ses œuvres. Donc, dans notre texte ici, Jean 14, continuons dans le verset 12 jusqu'au verset 14. Christ dit, en vérité, je vous le dis. Lorsque Christ dit, en vérité, il est lui-même la vérité. Donc, il suffit pour lui simplement de dire ce qu'il dit et de savoir que c'est la vérité, mais pour insister là-dessus. C'est pourquoi c'est doublement précisé, en vérité, je vous le dis. Réfléchissons qui parle ici. C'est Christ lui-même, c'est le Dieu homme lui-même qui ne peut jamais mentir. Donc, nous pouvons croire à ce qu'il dit et c'est effectivement la manière que nous sommes unis à Christ, c'est de croire à Christ, pas simplement croire en Christ, mais nous le croyons, parce que c'est lui qui est la vérité. Comme il a dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, nul ne peut venir au Père que par lui. Comment je peux savoir que je suis accepté du Père? C'est parce que je suis venu par la grâce de Dieu à Christ et par sa grâce unie à lui. Donc, la raison, c'est que nous croyons celui qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et c'est ici que nous voyons ce que c'est être uni au Christ, c'est être uni par la foi, celui qui croit en moi, et là c'est une grâce de pouvoir croire, c'est une œuvre de l'Esprit qui nous donne cette foi. Mais notez, voilà peut-être quelque chose d'étonnant, parce qu'il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ce que Christ est en train de dire à ses disciples et à nous aujourd'hui, c'est que son œuvre n'était pas terminée lorsqu'il est mort à la croix. Non, il est ressuscité et il est monté au ciel quand il dit « parce que je m'en vais au Père ». Et c'est ainsi qu'il est maintenant à la droite de la majesté divine. À la droite veut dire, c'est la position d'honneur que le Père lui donne. C'est une manière de parler. Mais, étant là, il continue son œuvre qu'il a commencée sur la terre, mais à travers son Église, à travers ces croyants qui sont mentionnés ici. Il ne parle pas simplement ici des disciples, parce que dans le contexte, il dit dans le verset 12, « Celui qui croit en moi, il y a plus aujourd'hui dans le monde que ces 12 disciples qui ont débuté avec Christ dans son ministère. » Donc, il s'agit ici de chacun de ceux en qui l'Esprit de Dieu a révélé Christ et par là sont maintenant unis à lui et il dit, il en fera de plus grandes œuvres. D'abord, il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il y a beaucoup aujourd'hui qui prétendent que cela veut dire opérer des miracles. Et donc, pour eux, c'est ce qu'il faut pour suivre. Mais les miracles étaient temporaires. Christ faisait ses miracles lorsqu'il était sur la terre pour qu'on prouve qu'il était en effet le Messie selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et pendant un temps, à travers le premier siècle, Christ a donné le pouvoir à ses apôtres d'aller opérer des miracles jusqu'à ce que la Bible soit complètement achevée. Cela veut dire que nous ayons le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Ce n'était pas encore écrit. Donc, lorsque les apôtres se déplaçaient pour aller prêcher, c'était une manière que Christ leur a donné ce pouvoir. Ce n'était pas entre leurs mains de faire les miracles comme ils voulaient, mais selon ce que Dieu, par son esprit, leur donnait de faire. Mais là aussi, ça devait être temporaire jusqu'à ce que la parole soit accomplie. Nous voyons cela surtout dans l'Épître aux Hébreux. Et si vous regardez avec moi dans le chapitre 2, il y a un passage ici qui explique tout cela. Hébreux chapitre 2. Il dit dans le verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Alors lorsque Christ dit ici dans le verset 12, que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce que Christ a fait lorsqu'il était sur la terre? Il allait partout prêcher son propre nom, prêcher aux gens qui il était. Et pourquoi il est venu? Pour qui il est venu? Voilà les questions importantes. Et effectivement, ce qu'il a accompli à la gloire de son Père, donc, ceux qui croient en lui font les mêmes choses. Nous ne dévions pas de ce message de Christ qui lui donne toute la gloire. Il n'y a pas de détour. Et nous continuons à annoncer ce message au nom de Christ aujourd'hui partout dans le monde. Donc, quand il dit il en fera de plus grandes, c'est parce que lorsque Christ était sur la terre, il appelait à lui-même un ici, un là, mais ce n'était pas dans le grand nombre de gens aujourd'hui, depuis la mort et la résurrection du Christ, son ascension, que l'Esprit de Dieu est en train maintenant d'attirer. Par exemple, la prédication de Pierre a amené à la conversion plus de 3000 personnes. Christ, lorsqu'il marchait sur la terre, n'a jamais prêché de cette manière pour attirer un si grand nombre à lui. C'est vrai, il y avait des foules qui le suivaient, mais il ne se fiait pas à eux. Mais ce n'est pas parce qu'il était impuissant, mais c'est selon la volonté de Dieu que Dieu a réservé ce nombre de gens qui devaient maintenant, après la mort de Christ et après son ascension, attirer à Christ un plus grand nombre que Christ lui-même n'a jamais vu lorsqu'il était sur cette terre. Son ministère était en fait limité au territoire d'Israël lorsqu'il était ici. Maintenant, il faut contempler comment cet évangile est propagé dans le monde. Nous avons des moyens aujourd'hui, même à travers la technologie, inventée par des gens qui n'ont aucune connaissance du Christ, mais que Dieu, dans sa souveraineté, utilise aujourd'hui pour propager sa parole partout dans le monde. Voilà comment de plus grandes œuvres que nous accomplissons, parce que Christ maintenant est monté au ciel, il a complété, il a achevé tout ce qu'il devait faire pour le salut de ceux qui maintenant sont appelés par l'Esprit de Dieu. Donc, nous ne devons, verset 1 de Hébreux 2, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc, quel que soit le temps qui a passé, nous restons toujours fidèles et fermes sur ce que Christ a enseigné à ses disciples au départ et que qu'à travers le témoignage maintenant, nous aussi, nous croyons par la grâce de Dieu. Il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, ça parle là de la loi dans l'Ancien Testament, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur. Donc c'est comme ça que Dieu maintenant en train d'appeler, ajouter à ce nom. D'abord, ça a commencé par lui, et puis par ses apôtres, et puis à travers ses apôtres, nous. C'est écrit, un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Confirmé par les apôtres. Comment? Dieu appuyant leur témoignage. Donc, vous voyez la manière que c'est écrit, ça nous montre que lorsque cette épître a été écrite aux Hébreux, déjà, il parle comme ce temps de signes et de prodiges étaient passés, Dieu ayant appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et notez, par les dons du Saint-Esprit, mais distribués selon sa volonté. Donc le point que je voudrais vous faire remarquer, c'est simplement que ce n'était pas pour toujours que ces prodiges, ces signes, ces miracles devaient continuer. C'est écrit ici, Dieu appuyant leur témoignage. C'était la manière que Dieu, à l'époque, a voulu confirmer le témoignage des apôtres jusqu'à ce que nous ayons cette parole inspiré et complète maintenant que nous lisons. Alors, pourquoi nous n'avons plus besoin de tels miracles aujourd'hui. Il y en a vraiment au point qui disent non, mais c'est de ça que Christ parle ici dans Jean 14, le verset 12, que vous allez faire de plus grands miracles. Qui peut faire une plus grande miracle que ce que Christ a déjà fait? Le fait de ressusciter les morts et donner la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui, mais aucun ne peut ressusciter les morts. C'est ce que Christ a fait. Donc ce n'est pas de cela qu'il parle, mais quand il dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Il parle là de l'aspect spirituel. Aujourd'hui, à travers ce que Christ faisait lorsqu'il était sur la terre, la prédication de l'Évangile, c'est le message qui exalte le Seigneur Jésus et lui donne toute la gloire en plus grand nombre maintenant, à travers beaucoup plus de serviteurs que les 12 qui étaient avec Christ. Il est en train de continuer son œuvre dans ce monde. Il n'est pas absent. Bien vrai, physiquement, il n'est pas ici, mais spirituellement, c'est pourquoi il envoie son esprit dans le monde. À travers son esprit, ceux qui sont unis à lui sont en train de propager d'une manière plus grande qu'à l'époque le message d'était. Je sais que peut-être ça c'est difficile de croire parce que nous regardons ici et là et nous nous demandons mais où sont ceux qui sont vraiment fidèles à Christ et qui prêchent Christ en toute sa vérité aujourd'hui. Et on peut peut-être répondre, mais nous sommes peu nombreux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne savons pas où sont tous ces serviteurs. Nous vivons dans la place où Dieu nous a placés dans ce monde. Mais c'est comme à l'époque, lorsque Élie se plaignait qu'il était seul, Dieu lui a dit que non, il s'est réservé 7000 prophètes que Élie ne connaissait même pas, mais 7000 qui ne se sont pas agenouillés devant Baal. Et je dois dire la même chose. Je ne peux pas dire que je connais tous ceux qui prêchent l'Évangile dans le monde. Nous ne faisons que les découvrir en prêchant Christ de cette manière. Je peux vous dire que depuis que l'Internet était établi et que maintenant il y a cette manière de communiquer à travers le monde comme nous faisons même ici, que je reçois de plus en plus des correspondances des hommes de partout dans le monde, d'Inde, de la Chine, et d'Europe, Angleterre, ailleurs, qui me disent que c'est effectivement le message que je prêche qu'il croit et qu'il s'efforce par la grâce de Dieu de prêcher dans leur milieu, même s'ils ne sont pas populaires. Cela me réjouit le cœur. Donc c'est dans ce sens que Christ a dit à ses disciples pour les préparer pour son départ que ce n'était pas la fin. Bien vrai, il devait donner sa vie, mais après ça, ressusciter et monter au ciel, ou du trône maintenant, au ciel, il est en train de continuer son œuvre à travers ceux qu'il appelle pour annoncer son message. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et le chapitre 4, nous voyons comment le Seigneur, en montant au ciel, a donné aux hommes des prédicateurs et des enseignants qui devaient maintenant par leur ministère et par leur prédication, édifier et continuer à perfectionner l'œuvre que Christ a commencée. Quand on dit perfectionner, je veux dire de continuer son œuvre qu'il a débutée, par exemple dans Éphésiens 4 et le verset 11, c'est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, ça c'était dans le premier siècle, les autres comme prophètes, jusqu'à ce que les Écritures soient complètes comme nous avons aujourd'hui, mais les autres comme évangélistes. Évangélistes contient le mot évangile. Donc, c'est eux que Christ envoie dans le monde en plus grand nombre que ceux qui existaient même à son temps. Bien vrai, il avait les 12 et puis il avait les 70 qui le représentaient lorsqu'il était sur la terre, mais maintenant le plus grand nombre. Et les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur veut dire enseignant. Nous voyons en cela les deux rôles que plus tard dans le livre des Actes des Apôtres étaient appelés, par exemple, les diacres sont des évangélistes. Je sais que la manière que beaucoup comprennent les diacres aujourd'hui, ce sont des gens qui servent dans une assemblée pour accomplir certaines tâches, non? Le mot diacre signifie un serviteur, un ministre. Paul lui-même se donnait ce titre d'être diacre du Seigneur Jésus-Christ. C'était un évangéliste. Il allait partout prêcher l'évangile. Et quand ça parle de pasteur et docteur, ce sont des anciens, non? Vous avez les diacres. Leur rôle, c'est de se déplacer, aller prêcher partout. Et vous avez les évêques ou bien les anciens qui restent comme surveillants dans les assemblées et leur rôle, c'est comme pasteur, ça ce n'est pas un titre pour honorer des hommes. Le mot pasteur veut dire un berger, un sous-berger qui s'occupe des brebis. Comment? En les enseignant. Alors Dieu a ses serviteurs partout dans le monde, en plus grand nombre aujourd'hui que lorsque Christ était sur la terre. Et c'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, il en fera de plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père. Alors verset 13, revenant à notre texte, Jean 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce que beaucoup ignorent en cela, c'est la partie qui dit en mon nom. Donc c'est ainsi que nous voyons comment ceux qui sont unis au Christ prient. Premièrement, nous avons vu comment ils œuvrent, ils travaillent au nom de Christ, hein, propageant son évangile. Et notez, ça, ce n'est pas réservé simplement à des hommes titulés comme pasteur ou prédicateur, non. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Chacun que l'Esprit de Dieu a appelé à Christ est un témoin de Christ partout où il va dans le monde. Donc, unir à Christ, au Christ non seulement dans ses œuvres, mais aussi selon sa volonté, dans ses prières, dans la manière qu'il s'adresse à Dieu. C'est écrit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, ça ne dit pas tout ce que vous demanderez. Si vous insistez assez dessus, là-dessus, donc voilà, vous aurez ce que vous demandez. Non. Demandez en son nom. C'est rien demander qui ne soit à la gloire du Fils. Voilà comment la manière que nous nous adressons à Dieu est limitée dans son dessein. Nous ne sommes pas en train de demander de n'importe quoi, mais demander ce qui réellement glorifie le Seigneur Jésus Et c'est ainsi, il dit, je le ferai. Dieu répond aux prières de ses enfants à cause du Christ. Et c'est de la main de Christ que ces réponses viennent, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On ne va pas aller au Père et demander quelque chose qu'il n'a pas déjà accordé à son Fils, tout pouvoir. Cela provient du Fils. Vous savez, nos enfants peuvent jouer entre le Père et la Mère. Si un enfant ne reçoit pas ce qu'il veut de son Père, alors il va de côté, il commence à négocier avec la Mère. C'est pas comme ça que nous nous approchons de Dieu. C'est pourquoi Christ enseignait à ses disciples comment prier. Et la première des choses, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié, ça veut dire mis à part, il est glorifié dans sa sainteté, et que sa volonté soit faite sur la terre comme c'est au ciel. C'est de cette manière que celui qui est enfant de Dieu prie. Et c'est pourquoi je peux dire que toute véritable prière, parce qu'une véritable prière n'est une véritable prière si ce n'est que l'Esprit de Dieu inspire cette prière. Sans lui, nous ne savons pas comment prier. Et il faut dire que beaucoup de ce que les hommes appellent la prière n'est pas la prière, c'est le bavardage devant un Dieu inconnu. Mais pour ceux qui croient en lui, ceux qui sont unis au Christ, tout ce qu'ils demandent, ils reçoivent. Pourquoi? Notez bien, deux fois c'est répété, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc si ce n'est pas en son nom, on ne peut pas anticiper une réponse. Et lorsque Christ dit, c'est en mon nom, il n'est pas en train de dire simplement, après une prière, quand les gens disent au nom de Jésus, nous te prions, Amen. Ce n'est pas d'ajouter le nom de Jésus là-dessus, mais c'est de prier pour tout ce qui concerne sa gloire. À travers les années, je reconnais combien de fois ce que j'appelais les prières n'étaient pas en fait des prières, parce que ça provenait de moi-même, de ce que je voulais. Et je pensais pouvoir insister là-dessus, même disant que non, c'est dans la foi que je demande et je réclame cela, comme les gens disent. Il faut réclamer les bénédictions par la foi. Non. Maintenant, je comprends. C'est de venir dans l'humilité par la grâce de Dieu et mettre tous nos plans devant lui et demander de rien donner si ce n'est ce qui peut en fait glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons avoir cette assurance que de demander de cette manière, c'est de recevoir. Parce que, encore, la raison c'est que le Père a un seul but, et cela de glorifier son Fils. Alors, quel privilège d'être uni au Christ, d'avoir cette foi que l'Esprit donne pour le connaître, et de savoir que si nous sommes enfants de Dieu, toute la gloire lui revient, et cela selon la volonté de son Père. Alors que cela nous encourage, nous qui sommes enfants de Dieu par sa grâce, que cela nous motive d'aller partout où le Seigneur nous place et nous envoie pour propager son grand nom et le glorifier en toutes choses. Amen.